Chapitre 3. Entretien de l'aumônier et d'Orroux. B. Dans la division que les Tahitiens se firent de l'équipage de Bougainville, l'aumônier est devant le partage d'Orroux. L'aumônier et le Tahitien étaient à peu près du même âge, 35 à 36 ans. Orroux n'avait alors que sa femme et trois filles appelées Asto, Palli et Tia. Elles le déshabillèrent, lui lavèrent le visage, les mains et les pieds, et lui servirent un repas sain et frugal. Lorsqu'il fut sur le point de se coucher, Orroux, qui s'était absenté avec sa famille, reparut, lui présenta sa femme et ses trois filles nues, et il lui dit « Tu as soupé, tu es jeune et tu te portes bien. Si tu dors seul, tu dormiras mal. L'homme a besoin la nuit d'une compagne à son côté. Voilà ma femme, voilà mes filles. Choisis celle qui te convient. Mais si tu veux m'obliger, tu donneras la préférence à la plus jeune de mes filles, qui n'a point encore eu d'enfant. » La mère ajouta « Hélas, je n'ai point à m'en plaindre, la pauvre Tia, c'est pas sa faute. » L'aumônier répondit que sa religion, son état, les bonnes mœurs et l'honnêteté ne lui permettaient pas d'accepter ses offres. Orroux répliqua « Je ne sais ce que c'est que la chose que tu appelles religion, mais je ne puis qu'en penser mal, puisqu'elle t'empêche de goûter un plaisir innocent, auquel nature, la souveraine maîtresse, nous invite tous, de donner l'existence à un de tes semblables, de rendre un service que le père, la mère et les enfants te demandent, de t'acquitter avec un autre qui t'a fait un bon accueil et d'enrichir une nation en la croissant d'un sujet de plus. Je ne sais ce que c'est que la chose que tu appelles état, mais ton premier devoir est d'être homme et d'être reconnaissant. Je ne te propose point de porter dans ton pays les mœurs d'Orroux, mais Orroux, ton hôte et ton ami, te supplient de le prêter aux mœurs de Tahiti. Les mœurs de Tahiti sont-elles meilleures ou plus mauvaises que les vôtres? C'est une question facile à décider. La terre où tu es né a-t-elle plus d'hommes qu'elle n'en peut nourrir? En ce cas, tes mœurs ne sont ni pires ni meilleures que les nôtres. Et peut-elle en nourrir plus qu'elle n'en a? Nos mœurs sont meilleures que les tiennes. Quant à l'honnêteté que tu m'objectes, je te comprends, j'avoue que j'ai tort, et je t'en demande pardon. Je n'exige pas que tu nuises à ta santé. Si tu es fatigué, il faut que tu te reposes. Mais j'espère que tu ne continueras pas à nous contrister. Vois le souci que tu as répandu sur tous ces visages. Elles craignent que tu n'aies remarqué en elles quelques défauts qui leur attirent ton dédain. Mais quand cela serait, le plaisir d'honorer une de mes filles entre ses compagnes et ses sœurs et de faire une bonne action ne te suffirait pas? Le sois généreux. L'aumônier. Bon, ce n'est pas cela, elles sont toutes quatre également belles. Mais ma religion, mais mon état. Elles m'appartiennent et je te les offre. Elles sont à elles et elles se donnent à toi. Quelle que soit la pureté de conscience que la chose religion et la chose état te prescrivent, tu peux les accepter sans scrupule. Je n'abuse pas de mon autorité et sois sûr que je connais, que je respecte les droits des personnes. Ici, le véridique aumônier convient que jamais la Providence ne l'avait exposé à une aussi pressante tentation. Il était jeune, il s'agitait, il se tourmentait, il détournait ses regards des aimables suppliantes, il les ramenait vers elle. Il levait ses mains et ses yeux au ciel. Tia, la plus jeune, embrassait ses genoux et lui disait « Étranger, n'afflige pas mon père, n'afflige pas ma mère, ne m'afflige pas. Honore-moi dans la cabane et parmi les miens. Élève-moi au rang de mes sœurs qui se moquent de moi. Asto, l'aînée, a déjà 3 enfants. Pali, la seconde, en a 2. Et Tia n'en a point. Étranger, honnête étranger, ne me rebute pas. Rends-moi mère. Fais-moi un enfant que je puisse un jour promener par la main à côté de moi dans Tahiti. Qu'on voie dans 9 mois attaché à mon sein, dont je sois fier et qui fasse une partie de ma dot lorsque je passerai de la cabane de mon père dans une autre. Je serai peut-être plus chanceuse avec toi qu'avec nos jeunes Tahitiens. Si tu m'accordes cette faveur, je ne t'oublierai plus. Je te bénirai toute ma vie. J'écrirai ton nom sur mon bras et sur celui de ton fils. Nous le prononcerons sans cesse avec joie. Et lorsque tu quitteras ce rivage, mes souhaits t'accompagneront sur les mers jusqu'à ce que tu sois arrivé dans ton pays. » Le naïf aumônier dit qu'elle lui serrait les mains, qu'elle attachait sur ses yeux des regards si expressifs et si touchants, qu'elle pleurait, que son père, sa mère et ses sœurs s'éloignèrent, qu'il resta seul avec elle et qu'en disant « Même ma religion, même mon état !» il se trouva le lendemain couché à côté de cette jeune fille qui l'accablait de caresses et qui invitait son père, sa mère et ses sœurs, lorsqu'ils s'approchèrent de leur lit le matin, à joindre leur reconnaissance à la sienne. Asto et Pali, qui s'étaient éloignés, rentrèrent avec les mets du pays, des boissons et des fruits. Elles embrassaient leurs sœurs et faisaient des vœux sur elles. Ils déjeunèrent tous ensemble. Ensuite, Oru, demeuré seul avec l'aumônier, lui dit « Je vois que ma fille est contente de toi, et je te remercie. Mais pourrais-tu m'apprendre ce que c'est que le mot « religion » que tu as répété tant de fois avec tant de douleur ?» L'aumônier, après avoir rêvé un moment, répondit « Qui est-ce qui a fait ta cabane et les ustensiles qui la meublent ?» Oru, « C'est moi. » « Eh bien, nous croyons que ce monde est ce qu'il renferme et l'ouvrage d'un ouvrier. »« Ah, il a donc des pieds, des mains, une tête ?»« Non. »« Mais où fait-il sa demeure ?»« Mais partout. »« Ici même ?»« Ici. » »« Nous ne l'avons jamais vu. »« On ne le voit pas. »« Oh, voilà un père bien indifférent. » Il doit être vieux, car il a au moins eu l'âge de son ouvrage. Il ne vieillit point. Il a parlé à nos ancêtres. Il leur a donné des lois. Il leur a prescrit la manière dont ils voulaient être honorés. Il leur a donné certaines actions comme bonnes. Il en aura défendu d'autres comme mauvaises. J'entends. Et une de ces actions qu'il leur a défendues comme mauvaises, c'est de coucher avec une femme et une fille. Mais pourquoi donc a-t-il fait 2 sexes ? Ben pour s'unir, mais à certaines conditions requises, après certaines cérémonies préalables, en conséquence desquelles un homme appartient à une femme et n'appartient qu'à elle. Une femme appartient à un homme et n'appartient qu'à lui. Pour toute leur vie ? Pour toute leur vie. En sorte que, s'il arrivait à une femme de coucher avec un autre que son mari, ou à un mari de coucher avec une autre que sa femme, mais cela n'arrive point, car, puisqu'il est là et que cela lui déplaît, il sait les empêcher. Non, non, il les laisse faire, et il pêche contre la loi de Dieu, car c'est ainsi que nous appelons le grand ouvrier, contre la loi du pays, et il commet un crime. Je serais fâché de t'offenser par mes discours, mais si tu le permettais, je te dirais mon avis. Parle. Ces préceptes singuliers, je les trouve opposés à la nature et contraires à la raison. Faits pour multiplier les crimes et fâcher à tout moment le vieil ouvrier qui a tout fait sans main, sans tête et sans outils, qui est partout et qu'on ne voit nulle part, qui dure aujourd'hui et demain et qui n'a pas un jour de plus. qui commande et qui n'est pas obéi, qui peut empêcher et qui n'empêche pas. Contraires à la nature, parce qu'ils supposent qu'un être pensant, sentant et libre, peut être la propriété d'un être semblable à lui. Mais sur quoi ce droit serait-il fondé? Ne vois-tu pas qu'on a confondu dans ton pays la chose qui n'a ni sensibilité, ni pensée, ni désir, ni volonté, et qu'on quitte, qu'on prend, qu'on garde, qu'on échange, sans qu'elle souffre et sans qu'elle se plaigne, avec la chose qui ne s'échange point, ne s'acquiert point, qui a liberté, volonté, désir, qui peut se donner ou se refuser pour un moment, se donner ou se refuser pour toujours, qui se plaint et qui souffre, et qui ne saurait devenir un effet de commerce, qu'on oublie son caractère et qu'on fasse violence à la nature. Contraire à la loi générale des êtres. Rien, en effet, te paraît-il plus insensé qu'un précepte qui proscrit le changement qui est en nous, qui commande une constance qui n'y est peut-être, et qui viole la liberté du mâle et de la femelle, les enchaînant pour toujours l'un à l'autre, qu'une fidélité qui borde dans la plus capricieuse des jouissances à un même individu, qu'un serment d'immutabilité de deux êtres de chair à la face d'un ciel qui n'est pas un instant le même sous des antres qui menacent aux ruines, au bas d'une roche qui tombe en poudre, au pied d'un arbre qui se gerce, sur une pierre qui s'ébranle. Quoi, moi ? Vous avez rendu la condition de l'homme pire que celle de l'animal. Je ne sais ce que c'est que ton grand ouvrier, mais je me réjouis qu'il n'ait point parlé à nos pères, et je souhaite qu'il ne parle point à nos enfants, car il pourrait par hasard leur dire les mêmes sottises, et il ferait peut-être celle de le croire. Hier, en soupant, tu nous as entretenus de magistrats et de prêtres. Je ne sais pas quels sont ces personnages que tu appelles magistrats et prêtres, dont l'autorité règle votre conduite. Mais dis-moi, sont-ils maîtres du bien et du mal? Peuvent-ils faire que ce qui est juste soit injuste et que ce qui est injuste soit juste? Dépend-il d'eux d'attacher le bien à des actions nuisibles et le mal à des actions innocentes ou utiles? Tu ne saurais le penser, car à ce compte, il n'y aurait ni vrai ni faux, ni bon ni mauvais, ni beau ni laid. Du moins, que ce qu'il plairait à ton grand ouvrier, à tes magistrats, à tes prêtres, de prononcer tel, et d'un moment à l'autre, tu serais obligé de changer d'idée et de conduite. Un jour, l'on te dirait de la part de l'un de trois maîtres, tu, et tu serais obligé en conscience de tuer. Un autre jour, vole, et tu serais tenu de voler. Ou ne mange pas de ce fruit, et tu n'oserais en manger. Je te défends ce légume ou cet animal, et tu te garderais d'y toucher. Il n'y a point de bonté qu'on ne pût l'interdire, point de méchanceté qu'on ne pût t'ordonner. Et où en serais-tu réduit si tes trois maîtres, peu d'accord entre eux, s'avisait de te permettre, de t'enjoindre, de te défendre la même chose, comme je pense qu'il arrive souvent. Alors, pour plaire au prêtre, il faudrait que tu te brouilles avec le magistrat. Pour satisfaire le magistrat, il faudrait que tu te mécontentes le grand ouvrier. Et pour te rendre agréable au grand ouvrier, il faudrait que tu renonces à la nature. Et sais-tu ce qui en arrivera? C'est que tu les mépriseras tous trois, et que tu ne seras ni homme, ni citoyen, ni pieux, que tu ne seras rien, que tu seras mal avec toutes les sortes d'autorités, mal avec toi-même, méchant, tourmenté par ton cœur, persécuté par tes maîtres insensés, et malheureux comme je te vis hier soir. Lorsque je te présentais mes filles et ma femme, et que tu t'écriais, « Mais ma religion, mais mon état !» Veux-tu savoir en tout temps et en tout lieu ce qui est bon et mauvais ? Attache-toi à la nature des choses et des actions, à tes rapports avec ton semblable, à l'influence de ta conduite sur ton utilité particulière et le bien général. Tu es en délire si tu crois qu'il n'y ait rien, soit en haut, soit en bas dans l'univers, qui puisse ajouter ou retrancher aux lois de la nature. Sa volonté éternelle est que le bien soit préféré au mal, et le bien général au bien particulier. Tu ordonneras le contraire, mais tu ne seras pas obéi. Tu multiplieras les malfaiteurs et les malheureux par la crainte, par les châtiments et par les remords. Tu dépraveras les consciences, tu corrompras les esprits, ils ne sauront plus ce qu'ils ont à faire ou à éviter. Troublés dans l'état d'innocence, tranquilles dans le forfait, ils auront perdu l'étoile polaire dans leur chemin. Réponds-moi sincèrement. En dépit des ordres express de tes trois législateurs, un jeune homme dans ton pays ne couche-t-il jamais sans leur permission avec une jeune fille? L'aumônier. Oh, je mentirais si je te l'assurais. La femme qui a jugé de n'appartenir qu'à son mari, ne se donne-t-elle point à un autre? Oh, rien de plus commun. Tes législateurs sévissent ou ne sévissent pas. S'ils sévissent, ce sont des bêtes féroces qui battent la nature. S'ils ne sévissent pas, ce sont des imbéciles qui ont exposé au mépris leur autorité par une défense inutile. Non, les coupables qui échappent à la sévérité des lois sont châtiés par le blâme général. Ah, c'est-à-dire que la justice s'exerce par le défaut du sens commun de toute la nation, et que c'est la folie de l'opinion qui supplée aux lois. La fille déshonorée ne trouve plus de mari. Déshonorée, et pourquoi? La femme infidèle est plus ou moins méprisée. Méprisée, et pourquoi? Le jeune homme s'appelle un lâche séducteur. Un lâche, un séducteur, et pourquoi? Le père, la mère et l'enfant sont désolés, et l'époux volage est un libertin. L'époux trahi partage la honte de sa femme. Quel monstrueux tissu d'extravagance tu m'exposes là! Et encore, tu ne dis pas tout. Car aussitôt qu'on s'est permis de disposer à son gré des idées de justice et de propriété, d'ôter ou de donner un caractère arbitraire aux choses, d'unir aux actions ou d'en séparer le bien et le mal sans consulter que le caprice, on se blâme, on s'accuse, on se suspecte, on se tyrannise, on est envieux, on est jaloux, on se trompe, on s'afflige, on se cache, on dissimule, on s'épie, on se surprend, on se querelle, on ment. Les filles en imposent à leurs parents, les maris à leurs femmes, les femmes à leurs maris. Des filles, oh oui, je n'en doute pas, des filles étoufferont leurs enfants. Des pères soupçonneux mépriseront et négligeront les leurs. Des mères s'en sépareront et les abandonneront à la merci du sort. Et le crime et la débauche se montreront sous toutes sortes de formes. Oh, je sais tout cela comme si j'avais vécu parmi vous. Cela est parce que cela doit être. Et ta société, dont votre chef vous vante le bel ordre, ne sera qu'un ramas d'hypocrites qui foulent secrètement aux pieds les lois, ou d'infortunés qui sont eux-mêmes les instruments de leur supplice en s'y soumettant, ou d'imbéciles en qui le préjugé a tout à fait étouffé la voix de la nature, ou d'êtres mal organisés en qui la nature ne réclame pas ses droits. L'aumônier. Cela ressemble, mais vous ne vous mariez donc point?
Nous nous marions.
Et qu'est-ce que votre mariage?
Le consentement d'habiter une même cabane et de coucher dans le même lit tant que nous nous y trouverons bien.
Et lorsque vous vous y trouvez mal?
Nous nous séparons.
Que deviennent vos enfants?
Oh, étranger! Ta dernière question achève de me déceler la profonde misère de ton pays.
Sache, mon ami, qu'ici la naissance d'une enfant est toujours un bonheur et sa mort un sujet de regret et de larmes.
Un enfant est un bien précieux parce qu'il doit devenir un homme. Aussi en avons-nous un tout autre soin que de nos plantes et de nos animaux. Un enfant qui naît occasionne la joie domestique et publique. C'est un accroissement de fortune pour la cabane et de force pour la nation. Ce sont des bras et des mains de plus dans Tahiti. Nous voyons en lui un agriculteur, un pêcheur, un chasseur, un soldat, un époux, un père. En repassant de la cabane de son mari dans celle de ses parents, une femme emmène avec elle les enfants qu'elle avait apportés en dot. On partage ceux qui sont nés pendant la cohabitation commune, et l'on compense, autant qu'il est possible, les mâles par les femelles, en sorte qu'il reste à chacun à peu près un nombre égal de filles et de garçons. Mais les enfants sont longtemps à charge avant qu'on ne rende service. Nous destinons à leur entretien et à la subsistance des vieillards une sixième partie de tous les fruits du pays. Ce tribut les suit partout. Ainsi, tu vois que plus la famille du Tahitien est nombreuse, plus il est riche. Une sixième partie. Oui, c'est un moyen sûr d'encourager la population et d'intéresser au respect de la vieillesse et à la conservation des enfants. Vos époux se reprennent-ils quelquefois? Oh, très souvent. Cependant, la durée la plus courte d'un mariage est d'une lune à l'autre. À moins que la femme soit grosse, alors la cohabitation est au moins de 9 mois. Oh, tu te trompes. La paternité, comme le tribut, suit l'enfant partout. Mais tu m'as parlé d'enfant qu'une femme apporte en dot à son mari. Assurément. Voilà ma fille aînée qui a 3 enfants. Ils marchent, ils sont sains, ils sont beaux, ils promettent d'être forts. Lorsqu'il lui prendra fantaisie de se marier, elle les emmènera. Ils sont les siens. Son mari les recevra avec joie et sa femme ne lui serait que plus agréable si elle était enceinte d'un 4e. De lui? Oh, de lui ou d'un autre. Plus nos filles ont d'enfants, plus elles sont recherchées. Plus nos garçons sont vigoureux et forts, plus ils sont riches. Aussi, autant nous sommes attentifs à préserver les unes des approches de l'homme et les autres du commerce de la femme, avant l'âge de fécondité. Autant nous les exertons à produire lorsque les garçons sont pubères et les filles nubiles. Tu ne saurais croire l'importance du service que tu auras rendu à ma fille Tia si tu lui as fait un enfant. Sa mère ne lui dira plus à chaque lune « Mais Tia, à quoi penses-tu donc? Tu ne deviens point grosse, tu as 19 ans. » Tu devrais avoir déjà 2 enfants, tu n'en as point. Quel est celui qui se chargera de toi? Si tu perds ainsi des jeunes ans, que feras-tu dans ta vieillesse? Tia, il faut que tu aies quelques défauts qui éloignent de toi les hommes. Corrige-toi, mon enfant. À ton âge, j'avais été 3 fois mère. Quelles précautions prenez-vous pour garder vos filles et vos garçons d'adolescents? C'est l'objet principal de l'éducation domestique et le point le plus important des mœurs publiques. Nos garçons, jusqu'à l'âge de 22 ans, 2 ou 3 ans au-delà de la puberté, restent couverts d'une longue tunique et les reins ceints d'une petite chaîne. Avant que d'être nubiles, nos filles n'oseraient sortir sans un voile blanc. Ôter sa chaîne, lever son voile, sont des fautes qui se commettent rarement parce que nous leur en apprenons de bonne heure les fâcheuses conséquences. Mais au moment où le mâle a pris toute sa force, où les symptômes virils ont de la continuité et où l'effusion fréquente et la qualité de la liqueur séminale nous rassurent, au moment où la jeune fille se fane, s'ennuie, est d'une maturité propre à concevoir des désirs, à en inspirer, et à les satisfaire avec utilité, le père détache la chaîne à son fils et lui coupe l'ongle du doigt du milieu de la main droite. La mère relève le voile de sa fille. L'un peut solliciter une femme et en être sollicité. L'autre se promener publiquement, le visage découvert et la gorge nue, accepter ou refuser les caresses d'un homme. On indique seulement d'avance aux garçons, les filles, à la fille, les garçons, qu'ils doivent préférer. C'est une grande fête que le jour de l'émancipation d'une fille ou d'un garçon. Si c'est une fille, la veille, les jeunes garçons se rassemblent autour de la cabane et l'air retentit pendant toute la nuit du chant des voix et du son des instruments. Le jour, elle est conduite par son père et par sa mère dans une enceinte où l'on danse et où l'on fait l'exercice du saut, de la lutte et de la course. On déploie l'homme nu devant elle, sous toutes ses faces et dans toutes ses attitudes. Si c'est un garçon, ce sont les jeunes filles qui font en sa présence les frais et les honneurs de la fête et exposent à ses regards la femme nue sans réserve et sans secret. Le reste de la cérémonie s'achève sur un lit de feuilles, comme tu l'as vu à ta descente parmi nous. À la chute du jour, la fille rentre dans la cabane de ses parents ou passe dans la cabane de celui dont on l'a fait choix et y reste tant qu'elle s'y plaît. Ainsi, cette fête est ou n'est point un jour de mariage. Tu l'as dit. Ah. Qu'est-ce que je vois là en marge? B. C'est une note où le bon aumônier dit que les préceptes des parents sur le choix des garçons et des filles étaient pleins de bon sens et d'observations très fines et très utiles. Mais qu'il a supprimé ce catéchisme qui aurait paru à des gens aussi corrompus et aussi superficiels que nous d'une licence impardonnable. Ajoutant toutefois que ce n'était pas sans regret qu'il avait retranché des détails où l'on aurait vu, premièrement, jusqu'où une nation qui s'occupe sans cesse d'un objet important peut être conduite dans ses recherches sans les secours de la physique et de l'anatomie. Secondement, la différence des idées et de la beauté dans une contrée où l'on rapporte les formes au plaisir d'un moment, chez un peuple où elles sont appréciées d'après une utilité plus constante. Là, pour être belle, on exige un teint éclatant, un grand front, de grands yeux, des traits fins et délicats, une taille légère, une petite bouche, de petites mains, un petit pied. Ici, presque aucun de ces éléments n'entre en calcul. La femme sur laquelle les regards s'attachent et que le désir poursuit est celle qui promet beaucoup d'enfants, la femme du cardinal d'Ossa, et qui les promet actifs, intelligents, courageux, sains et robustes. Il n'y a presque rien de commun entre la Vénus d'Athènes et celle de Tahiti. L'une est Vénus galante, l'autre est Vénus féconde. Une Tahitienne disait un jour avec mépris à une autre femme du pays « Tu es belle, mais tu fais de laids enfants. Je suis laide, mais je fais de beaux enfants. Et c'est moi que les hommes préfèrent. » Après cette note de l'aumônier, Horou continue. Horou. Le remoment pour une jeune fille et pour ses parents que celui où sa grossesse est constatée. Elle se lève, elle accourt, elle jette ses bras autour du cou de sa mère et de son père. C'est avec des transports d'une joie mutuelle qu'elle leur annonce et qu'ils apprennent cet événement. « Maman, mon papa, embrassez-moi, je suis grosse. » « Est-il bien vrai ?» Très vrai. Et de qui l'êtes-vous? Oh, je le suis d'un tel. Ha ! Dit l'aumônier, mais comment peut-elle nommer le père de son enfant? Mais pourquoi veux-tu qu'elle l'ignore? Il en est de la durée de nos amours comme celle de nos mariages. Elle est au moins d'une lune à la lune suivante. Et cette règle est bien scrupuleusement observée. Tu vas en juger. D'abord, l'intervalle de deux lunes n'est pas long, mais lorsque deux pères ont une prétention bien fondée à la formation d'un enfant, il n'appartient plus à sa mère. À qui appartient-il donc? à celui des deux à qui il plaît de le donner. Voilà tout son privilège. Et un enfant étant par lui-même un objet d'intérêt et de richesse, tu conçois que parmi nous, les libertines sont rares et que les jeunes garçons s'en éloignent. Ah, vous avez donc aussi vos libertines, j'en suis bien aise. Nous en avons même de plus d'une sorte. Mais tu m'écartes de mon sujet. Lorsqu'une de nos filles est grosse, si le père de l'enfant est un jeune homme beau, bien fait, brave, intelligent et laborieux, l'espérance que l'enfant héritera des vertus de son père renouvelle l'allégresse. Notre enfant n'a honte que d'un mauvais choix. Tu dois concevoir quel prix nous attachons à la santé, à la beauté, à la force, à l'industrie, au courage. Tu dois concevoir comment, sans que nous nous en mêlions, les prérogatives du sang doivent s'éterniser parmi nous. Toi qui as parcouru diverses contrées, dis-moi si tu as remarqué dans aucune autant de beaux hommes et autant de belles femmes que dans Tahiti. Regarde-moi, comment me trouves-tu? Eh bien, il y a 10 000 hommes ici, plus grands, aussi robustes, mais pas un plus brave que moi. Aussi les mères me désignent-elles souvent à leurs filles. Mais de tous ces enfants que tu peux avoir faits hors de ta cabane, que t'en revient-il? Le quatrième, mâle ou femelle, il s'est établi parmi nous une circulation d'hommes, de femmes et d'enfants, ou de bras de tout âge et de toute fonction, qui est bien d'une autre importance que celle de vos denrées, qui n'en sont que le produit. L'aumônier. Je le conçois, mais qu'est-ce que c'est que ces voiles noires que j'ai rencontrées quelquefois? Le signe de la stérilité, vice de naissance, ou suite de l'âge avancé. Celle qui quitte ce voile et se mêle avec les hommes est une libertine. Celui qui relève ce voile et s'approche de la femme stérile est un libertin. Et ces voiles gris? Le signe de la maladie périodique. Celle qui quitte ce voile et se mêle avec les hommes est une libertine. Celui qui le relève et s'approche de la femme malade est un libertin. Avez-vous des châtiments pour ce libertinage? Ou point d'autre que le blâme? Un père peut-il coucher avec sa fille, une mère avec son fils, un frère avec sa sœur, un mari avec la femme d'un autre? Pourquoi non? Passe pour la fornication, mais l'inceste, l'adultère. Qu'est-ce que tu veux dire avec tes mots fornication, inceste, adultère? Des crimes énormes pour l'un desquels on brûle dans mon pays. Bon, qu'on brûle ou qu'on ne brûle pas dans ton pays, peu m'importe. Mais tu n'accuseras pas les mœurs d'Europe par celles de Tahiti, ni par conséquent les mœurs de Tahiti par celles de ton pays. Il nous faut une règle plus sûre. Et quelle sera cette règle? En connais-tu une autre que le bien général et l'utilité particulière? À présent, dis-moi ce que ton crime inceste a de contraire à ces deux fins de nos actions. Tu te trompes, mon ami, si tu crois qu'une loi, une fois publiée, un mot ignominieux inventé, un supplice décerné, tout est dit. Réponds-moi donc, qu'entends-tu par inceste? Mais un inceste... Y a-t-il longtemps que ton grand ouvrier, sans tête, sans main et sans outils, a fait le monde? Non. Fit-il toute l'espèce humaine à la fois? Non, il créa seulement une femme et un homme. Eurent-ils des enfants? Assurément. Supposons que ces deux premiers parents n'aient eu que des filles, et que leur mère soit morte la première, ou qu'il n'ait eu que des garçons et que la femme ait perdu son mari. Bon, tu m'embarrasses, mais tu as beau dire, l'inceste est un crime abominable. Parlons d'autre chose. Cela te plaît à dire, Je me tais, moi, tant que tu ne m'auras pas dit ce que c'est que le crime abominable inceste. Eh bien, je t'accorde que peut-être l'inceste ne blesse en rien la nature. Mais ne suffit-il pas qu'il menace la constitution politique? Que deviendrait la sûreté d'un chef et la tranquillité d'un État si toute une nation composée de plusieurs millions d'hommes se trouvait rassemblée autour d'une cinquantaine de pères de famille? Le pis-aller, c'est qu'où il n'y a qu'une grande société, il y aurait 50 petites, plus de bonheur et un crime de moins. Je crois cependant que même ici, un fils couche rarement avec sa mère. À moins qu'il n'ait beaucoup de respect pour elle, et une tendresse qui lui fasse oublier la disparité d'âge, et préférer une femme de 40 ans à une fille de 19. Et le commerce des pères avec leurs filles, ou guère plus fréquent, à moins que la fille ne soit laide et peu recherchée. Si son père l'aime, il s'occupe à lui préparer sa dot en enfant. Cela me fait imaginer que le sort des femmes que la nature a disgraciées ne doit pas être heureux dans Tahiti. Cela me prouve que tu n'as pas une haute opinion de la générosité de nos jeunes gens. Pour les unions de frères et de sœurs, là, je ne doute pas qu'elles ne soient très communes et très approuvées. À t'entendre, cette passion qui produit tant de crimes et de maux dans nos contrées serait ici tout à fait innocente. Étranger, tu manques de jugement et de mémoire. De jugement, car partout où il y a défense, il faut qu'on soit tenté de faire la chose défendue et qu'on la fasse. De mémoire, puisque tu ne te souviens plus de ce que je t'ai dit. Nous avons des vieilles dissolues qui sortent la nuit sans leur voile noire et reçoivent des hommes lorsqu'il ne peut rien résulter de leur approche. Si elles sont reconnues ou surprises, l'exil au nord de l'île ou l'esclavage est leur châtiment. Des filles précoces qui relèvent leur voile blanc à l'insu de leurs parents. Et nous avons pour elles un lieu fermé dans la cabane. Des jeunes gens qui déposent leurs chaînes avant le temps prescrit par la nature et par la loi. Et nous en réprimandons leurs parents. Des femmes à qui le temps de la grossesse paraît long. Des femmes et des filles peu scrupuleuses à garder leur voile gris. Mais dans le fait, nous n'attachons pas une grande importance à toutes ces fautes. Et tu ne saurais croire combien l'idée de richesse particulière ou publique, unie dans nos têtes à l'idée de population, est pure, nos mœurs, sur ce point. La passion de deux hommes pour une même femme, ou le goût de deux femmes ou de deux filles pour un même homme, n'occasionne point de désordre? Je n'en ai pas encore vu quatre exemples. Le choix de la femme ou celui de l'homme finit tout. La violence d'un homme serait une faute grave. Mais il faut une plainte publique, et il est presque inouï qu'une fille ou qu'une femme se soit plainte. La seule chose que j'ai remarquée, c'est que nos femmes ont moins de pitié des hommes laids que nos jeunes gens, des femmes disgraciées. Mais nous n'en sommes pas fâchés. Vous ne connaissez guère la jalousie, à ce que je vois. Mais la tendresse maritale, l'amour maternel, ces deux sentiments si puissants et si doux, s'ils ne sont pas étrangers ici, ils doivent y être assez faibles. Nous y avons suppléé par un autre qui est tout autrement général, énergique et durable, l'intérêt. Mets la main sur la conscience. Laisse là cette fanfaronnade de vertu qui est sans cesse sur les lèvres de tes camarades et qui ne réside pas au fond de leur cœur. Dis-moi, si dans quelque contrée que ce soit, il y a un père qui, sans la honte qui le retient, n'aima mieux perdre son enfant, un mari qui n'aima mieux perdre sa femme que sa fortune et l'aisance de toute sa vie. Sois sûr que partout où l'homme sera attaché à la conservation de son semblable, comme à son lit, à sa santé, à son repos, à sa cabane, à ses fruits, à ses champs, il fera pour lui tout ce qui sera possible de faire. C'est ici que les pleurs trempent la couche d'un enfant qui souffre. C'est ici que les mères sont soignées dans la maladie. C'est ici qu'on prise une femme féconde, une fille nubile, un garçon adolescent. C'est ici qu'on s'occupe de leur institution, parce que leur conservation est toujours en accroissement et leur perte toujours une diminution de fortune. Je crains bien que ce sauvage n'ait raison. Le paysan misérable de nos contrées et qui excède sa femme pour soulager son cheval, laisse périr son enfant sans secours et appelle le médecin pour son bœuf. Je n'entends pas trop ce que tu viens de dire. Mais à ton retour dans ta patrie, si bien policée, tâche d'y introduire ce ressort. Et c'est alors qu'on y sentira le prix de l'enfant qui naît et l'importance de la population. Veux-tu que je te révèle un secret, mais prends garde qu'il ne t'échappe. Vous arrivez. Nous vous abandonnons nos femmes et nos filles. Vous vous en étonnez. Vous nous en témoignez une gratitude qui nous fait rire. Vous nous remerciez lorsque nous asseyons sur toi et sur tes compagnons la plus forte de toutes tes impositions. Or nous ne t'avons point demandé d'argent. Nous ne nous sommes point jetés sur tes marchandises. Nous avons méprisé tes denrées. Mais nos femmes et nos filles sont venues exprimer le sang de tes veines. Quand tu t'éloigneras, tu nous auras laissé des enfants. Ce tribut levé sur ta personne, sur ta propre substance, à ton avis, n'en vaut-il pas bien un autre? Et si tu veux en apprécier la valeur, imagine que tu aies 200 lieues de côte à courir et qu'à chaque 20 000, on te mette à pareille contribution. Nous avons des terres immenses en friche. Nous manquons de bras et nous t'en avons demandé. Nous avons des calamités épidémiques à réparer et nous t'avons employé à réparer le vide qu'elles laisseront. Nous avons des ennemis voisins à combattre, un besoin de soldats, et nous t'avons prié de nous en faire. Le nombre de nos femmes et de nos filles est trop grand pour celui des hommes, et nous t'avons associé à notre tâche. Parmi ces femmes et ces filles, il y en a dont nous n'avons pu obtenir d'enfants, et ce sont celles que nous avons exposées à vos premiers embrassements. Nous avons à payer une redevance en homme à un voisin oppresseur. C'est toi et tes camarades qui nous effraierez. Et dans 5 ou 6 ans, nous lui enverrons vos fils, s'ils valent moins que les nôtres. Plus robustes, plus sains que vous, nous nous sommes aperçus que vous nous surpassiez en intelligence. Et sur le champ, nous avons destiné quelques-unes de nos femmes et de nos filles les plus belles à recueillir la semence d'une race meilleure que la nôtre. C'est un essai que nous avons tenté et qui pourra nous réussir. Nous avons tiré de toi et des tiens le seul parti que nous en pouvions tirer, et quoique tout sauvage que nous sommes, nous savons aussi calculer. Va où tu voudras, et tu trouveras toujours l'homme aussi fin que toi. Il ne te donnera jamais que ce qui lui est bon à rien. Il te demandera toujours ce qui lui est utile. S'il te présente un morceau d'or pour un morceau de fer, c'est qu'il ne fait aucun cas de l'or et qu'il prise le fer. Mais dis-moi donc pourquoi tu n'es pas vêtu comme les autres. Que signifie cette casaque longue qui t'enveloppe de la tête aux pieds ? Et ce sac pointu que tu laisses tomber sur tes épaules ou que tu ramènes sur tes oreilles. C'est que, tel que tu me vois, je me suis engagé dans une société d'hommes qu'on appelle dans mon pays des moines. Le plus sacré de leurs vœux est de n'approcher d'aucune femme et de ne point faire d'enfant. Et que faites-vous donc? Rien. Et ton magistrat souffre cette espèce de paresse, la pire de toutes? Oh, il fait plus, il la respecte et la fait respecter. Ma première pensée était que la nature, quelque accident ou un art cruel, vous avait privé de la faculté de produire votre semblable, et que par pitié on aimait mieux vous laisser vivre que de vous tuer. Mais moi, ma fille m'a dit que tu étais un homme, et un homme aussi robuste qu'un Tahitien, et qu'elle espérait que tes caresses réitérées ne seraient pas infructueuses. À présent que j'ai compris pourquoi tu t'es écrié hier au soir, même ma religion, même mon état, pourrais-tu m'apprendre le motif de la faveur et du respect que les magistrats vous accordent? Je l'ignore. Tu sais au moins par quelle raison, étant homme, tu t'es librement condamné à ne pas l'être. Oh, ce serait trop long et trop difficile à t'expliquer. Et ce vœu de stérilité, le moine y est-il bien fidèle? Non, j'en étais sûr. Avez-vous aussi des moines femelles? Oui. Aussi sages que les moines mâles? Plus renfermées, elles sèchent de douleur, périssent d'ennui. Et l'injure faite à la nature est vengée, ô le vilain pays! Mais si tout y est ordonné comme ce que tu m'en dis, vous êtes plus barbares que nous. Le bon aumônier raconte qu'il passa le reste de la journée à parcourir l'île, à visiter les cabanes, et que le soir, après avoir soupé, le père et la mère l'ayant supplié de coucher avec la seconde de leur fille, Pally s'étant présenté dans le même déshabillé que Tia, et qui s'était écrié plusieurs fois pendant la nuit, même ma religion, même mon état, que la troisième nuit il avait été agité des mêmes remords avec Asto l'aîné, et que la quatrième nuit il avait accordé, par honnêteté, à la femme de son hôte.